Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Cela fera 2 ans le 4 août prochain, une gigantesque explosion retentissait sur le port de Beyrouth parmi les associations qui ont participé à l'aide apportée aux Libanais. L'œuvre d'Orient, Vincent Gello, responsable de projet pour cette ONG en Syrie et au Liban, sera l'un de nos invités. L'Europe s'attaque à sa dépendance énergétique russe face au risque de coupure. Le Premier ministre italien qui vient de démissionner s'est rendu cette semaine en Algérie où il a co-présidé un sommet avec le président algérien. Nous écouterons Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Les autorités marocaines annoncent avoir secouru 236 migrants en situation irrégulière en l'espace de 3 jours. Des sauvetages au large de la Méditerranée. 9 civils ont été tués, 23 blessés dans le nord de l'Irak par des tirs d'artillerie. Bagdad accuse la Turquie des tirs qui ont touché un parc dans la région du Kurdistan. Les revenus du conjoint ne seront plus pris en compte lors de l'attribution de l'allocation adulte handicapé. L'Assemblée nationale a approuvé cette déconjugalisation de cette aide. Le Liban s'apprête à vivre un douloureux anniversaire. Cela fera 2 ans dans 2 semaines, le 4 août 2020. Une gigantesque explosion dévastatrice et meurtrière retentissait sur le port de Beyrouth avec un bilan humain dramatique. Plus de 200 morts et 6500 blessés. Des dizaines de milliers de bâtiments, 6 hôpitaux, 20 de cliniques et près de 120 écoles ont été détruites ou endommagées. Parmi les associations qui ont participé à l'aide apportée aux Libanais, l'œuvre d'Orient, entretient avec Vincent Gello, responsable de projet pour l'ONG en Syrie et au Liban.
L'œuvre d'Orient d'abord travaille au Liban depuis sa création en 1856. Donc nous avons à Beyrouth, mais aussi dans tout le Liban, des partenaires qui sont les églises d'Orient, les communautés chrétiennes d'Orient, qui ont des écoles, des dispensaires, des hôpitaux, des œuvres de charité, des centres d'accueil spécialisés. Et toutes ces communautés en fait sont d'abord touchées par la crise économique et politique qui frappe actuellement le Liban, et l'explosion du 4 août de 2020 les a particulièrement touchés, parce que d'abord l'explosion a particulièrement touché, je dirais, les quartiers chrétiens historiques de la capitale. Donc elle a touché évidemment des habitations, elle a détruit des vies, et puis elle a détruit aussi des infrastructures essentielles comme des écoles, des hôpitaux notamment. Et donc depuis le 4 août 2020, comme beaucoup d'associations d'ailleurs sur le terrain, l'œuvre d'Orient travaille à la reconstruction de ce qui a pu être détruit, en particulier les écoles et les hôpitaux.
Vous soulignez que la situation au Liban était déjà particulièrement difficile avant ce 4 août 2020.
Oui, tout à fait. En fait, le Liban traverse une crise qui remonte à 2019, mais qui en fait est une crise profonde du système économique et politique de ce pays depuis la fin de la guerre civile en 1990. Et en fait, depuis 2019, le pays a traversé d'abord des épisodes de contestation forte de la part de la population envers les dirigeants politiques de ce pays. Il y a eu également la crise du Covid qui a également frappé le Liban, et puis la monnaie, la livre libanaise s'est complètement dévaluée. Le pays a connu des pénuries, notamment des pénuries d'essence, une hausse vertigineuse des coûts de mazout dans un pays où, je le rappelle, il n'y a presque plus d'électricité publique. Tous les systèmes électriques fonctionnent avec des générateurs à mazout qui coûtent extrêmement cher, et le coût de la vie en général a augmenté, donc la population s'est paupérisée de façon très forte, ce qui fait qu'aujourd'hui le pays traverse une vraie crise profonde, je dirais une crise de confiance sur l'état du pays, et malheureusement ça entraîne notamment le départ de beaucoup de personnes, notamment les plus jeunes, ou les personnes qualifiées.
Il y a aujourd'hui une émigration importante au Liban.
Elle est difficile à mesurer parce qu'on n'a pas de chiffres précis, mais il suffit de se rendre souvent justement dans les écoles, les centres médicaux, et on nous dit que voilà, 10-15% des gens du personnel a quitté. Voilà, donc il y a quand même une émigration. En tout cas, il y a un désir d'émigrer qui est parfois fort, notamment chez les plus jeunes qui perdent un peu espoir en fait. Face à l'absence de réformes au niveau politique du pays, face à la descente aussi économique que connaît ce pays. Hein. Économiquement, on descend vraiment les marches 4 à 4 depuis 3 ans. Et donc c'est vrai que ça entraîne des départs. Et là aussi, notamment chez la communauté chrétienne, qui dont la diaspora est importante et qui a vécu aussi très mal l'explosion et la dégradation économique du pays.
Vous parlez des plus jeunes. L'œuvre d'Orient a agi pour l'éducation et pour les écoles au Liban.
Oui, tout à fait. Depuis, en fait, c'est dans l'ADN de l'œuvre d'Orient, hein, depuis sa création. D'ailleurs, l'œuvre d'Orient s'appelait l'œuvre des écoles d'Orient à sa création. Donc, c'est vraiment quelque chose à la fois d'historique, mais aussi parce que c'est important. Au Liban, les écoles chrétiennes maillent le territoire. Il y en a plus de 300 à travers le pays. Elles sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans des régions périphériques, rurales, dans les quartiers pauvres, à Beyrouth, mais aussi dans d'autres villes, comme Tripoli par exemple, ou d'autres villes du pays. Donc ces écoles sont essentielles parce que non seulement elles apportent l'éducation aux petits Libanais, mais elles sont ouvertes à des enfants de toutes confessions. Donc elles accueillent des enfants chrétiens, mais aussi des enfants sunnites, chiites, druzes par exemple, et puis des enfants de différentes conditions sociales. Donc en fait, l'école, c'est pas seulement un lieu d'éducation, mais c'est aussi un lieu de rencontre entre des personnes, voilà, de différents niveaux sociaux, de différentes communautés. Et donc en cela, les écoles sont un pilier au Liban et assurent une certaine stabilité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la crise qui frappe le Liban et qui menace ces écoles, dont certaines sont déjà en train de fermer, est tout à fait dangereuse pour la stabilité, je dirais même, du Liban. Et c'est pour ça que l'œuvre d'Orient se bat pour la survie de ces établissements, notamment en soutenant les familles des élèves qui n'arrivent pas à payer les scolarités pour leurs enfants, et en soutenant aussi le corps enseignant, dont les salaires ont fondu comme neige au soleil avec la dévaluation.
La fermeture de ces écoles est liée à cette très grave crise économique subie aujourd'hui par le Liban.
Oui, tout à fait. Puis elle est liée aussi à l'absence de l'État. Un certain nombre de ces écoles devrait normalement être subventionné par l'État libanais, qui ne paye plus ses subventions depuis presque 6 ans. Donc aujourd'hui, ces écoles sont devenues des poids à porter pour les congrégations, les diocèses qui les portent. Et donc c'est une première chose. Et puis en effet, la crise économique fait que les familles des élèves n'arrivent plus à payer les scolarités, donc les professeurs sont mal payés, donc le fonctionnement de l'école ne se fait plus. Et puis encore une fois, il n'y a presque plus d'électricité dans les établissements, les écoles ont du mal à tourner. Voilà. Et donc aujourd'hui, certaines écoles ferment par exemple 2 jours sur 5 dans la semaine. C'est assez dramatique, et certaines autres menacent de ne pas réouvrir, et on ne sait pas comment va se passer la rentrée scolaire qui vient. Donc c'est pour ça que nous nous battons pour que ces écoles puissent poursuivre leur mission éducative et je dirais presque humaine et au sein de ce pays.
Vous vivez à Beyrouth, Vincent Gello. Est-ce que vous pouvez nous faire part des principales difficultés aujourd'hui pour vous et pour les Libanais?
D'abord, il y a des difficultés du quotidien, c'est-à-dire qu'on est dans un pays où le coût de la vie change tous les jours, où on n'a pas d'électricité 24 heures sur 24, ce qui est quand même extrêmement pénible également. L'essence coûte très cher, donc aujourd'hui, le moindre déplacement est bien réfléchi et bien pesé par celui ou celle qui prend sa voiture. Ce qui est frappant également, c'est le creusement des inégalités entre les Libanais. Je dirais qu'il y a une minorité de Libanais qui continuent de vivre normalement parce que ils arrivent à obtenir des dollars soit par la diaspora, soit parce que certains membres de la famille qui travaillent dans les pays du Golfe, en Afrique ou en Occident arrivent à faire vivre en fait la famille. Et puis il y a les Libanais qui eux subissent, n'ont pas ces entrées-là et subissent complètement la situation. Et ça, c'est assez frappant, et on le voit dans la rue ou dans les restaurants, etc. C'est cet écart de richesse qui se creuse. Et puis je dirais que le Liban, surtout, traverse encore une fois une crise de confiance. Et je crois que ce qui manque aujourd'hui au Liban, c'est de retrouver une vision, c'est de retrouver un cap au sein de cette crise, en fait, et essayer de retrouver un chemin d'unité qui les conduirait vers une sortie de crise. On parle beaucoup du devoir de réforme au niveau politique, au niveau économique, pour sortir de ce marasme. Et en fait, aujourd'hui, les Libanais ont beaucoup la tête engluée dans leurs problèmes du quotidien, et on les comprend. Et en même temps, ça les empêche de se projeter vers un avenir commun, vers une sortie de cette crise. Et je crois que le gros problème, il est là. C'est un problème de confiance, et puis de désir, d'unité finalement, par rapport à cette crise pour pouvoir en sortir. Je crois que le problème, il est là.
Vincent Gélot, responsable de projet pour l'œuvre d'Orient en Syrie et au Liban. 9 civils ont été tués, 23 blessés dans le nord de l'Irak par des tirs d'artillerie. Bagdad accuse la Turquie des tirs qui ont touché un parc dans la région du Kurdistan. Les victimes étaient pour la plupart des touristes irakiens, en majorité du centre et du sud de l'Irak. Les autorités irakiennes exigent de leurs voisins turcs le retrait de toutes ces forces armées d'Irak et l'ont menacé de riposte. Le premier ministre irakien a décrété ce jeudi une journée de national. Le conflit tribal dans le Nil Bleu, dans le sud du Soudan, a fait 105 morts et 291 blessés la semaine dernière. Un nouveau bilan après près d'une semaine d'affrontements à l'arme à feu, des violences liées à un conflit foncier. Les autorités marocaines annoncent avoir secouru 236 migrants en situation irrégulière en l'espace de 3 jours. Des sauvetages au large de la Méditerranée. La plupart des personnes sauvées sont originaires d'Afrique subsaharienne. Les candidats à l'exil secourus ont reçu les premiers soins nécessaires par la Marine royale avant d'être transférés vers des ports pour être remis à la gendarmerie royale. La canicule qui s'est abattue durant près de 10 jours sur l'Espagne a provoqué la mort de plus de 500 personnes. Bilan fourni par le premier ministre espagnol. C'était lors d'un déplacement en Aragon, région du nord du pays touchée par un incendie. Au Liban, un important incendie situé aux abords du village de Kabit dans le Hakkar a été maîtrisé hier soir avant de se raviver ce matin. Cette région a déjà connu plusieurs feux cette année. L'Algérie consolide sa position de premier fournisseur en gaz de l'Italie. Le premier ministre italien qui a démissionné ce jeudi était lundi et mardi en visite officielle à Alger. Il a été reçu par le président algérien avec qui il a coprésidé le 4e sommet algéro-italien, sommet au cours duquel ont été scellés de nombreux accords, notamment pour accroître la fourniture de gaz algérien à Rome. Nous y revenons avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie.
C'est le 4e sommet intergouvernemental algéro-italien qui a été sanctionné par plusieurs décisions et plusieurs mémorandum d'entente et des accords dans plusieurs secteurs, le secteur par exemple de l'industrie, de la production pharmaceutique, dans le secteur de la lutte contre la corruption, dans le secteur de l'énergie, également de l'énergie renouvelable, puisque l'Algérie et l'Italie sont de grands partenaires sur le plan énergie. Il y a un gazoduc qui traverse la Tunisie, qui va vers l'Italie, fournir du gaz naturel à l'Italie et à une partie de l'Europe, et l'Algérie s'est engagée d'ailleurs pour fournir du gaz naturel à certains pays européens, notamment l'Italie. Un accord de 4 milliards de dollars a été signé qui implique plusieurs sociétés comme la société occidentale, la société Eni, la société italienne et la société Total pour augmenter le volume de gaz fourni à l'Italie. Donc c'est un accord stratégique. Cela a été clairement souligné d'ailleurs lors de la réunion et de la conférence de presse conjointe du président Abdelmadjid Tebboune et du premier ministre italien Mario Draghi, pour souligner l'idée que l'Algérie et l'Italie sont des partenaires stratégiques. L'Algérie considère l'Italie comme un grand partenaire dans l'Union européenne.
L'Italie, qui n'est pas le premier pays à se tourner vers l'Algérie pour réduire sa dépendance à la Russie depuis que la Russie a envahi l'Ukraine.
Oui, absolument. On comprend que les pays de l'Union européenne, certains pays qui dépendent grandement, d'ailleurs vous l'avez dit, du gaz russe, voudraient sortir de cette dépendance, d'avoir un peu plus d'autres fournisseurs, d'autres libertés. Il s'agit donc de pays comme l'Algérie. L'Algérie qui est d'ailleurs le troisième fournisseur de l'Europe en matière de gaz, après la Russie et la Norvège, et aussi avant l'Azerbaïdjan et le Qatar. Des pays européens voudraient avoir du GNL à travers les navires du Qatar, des États-Unis, du Canada et d'autres. Mais vous savez que pour transporter du gaz à bord de navire, cela prend beaucoup de temps et l'hiver arrive. Tous les pays européens maintenant sont en train de préparer l'hiver. C'est un hiver rigoureux pour l'Europe. Et donc beaucoup de pays se tournent vers des producteurs gaziers en Afrique, notamment l'Algérie, la Libye, l'Angola, la RDC, etc. Et on a vu que le ministre des Affaires étrangères de l'Italie et d'autres ministres européens, espagnols, français et d'autres font la tournée de certains pays africains et aussi arabes, comme les Émirats arabes unis. Le président émirati était en France ces derniers jours pour signer un gros accord dans le domaine de l'énergie et ce souci donc de renforcer la sécurité énergétique européenne. L'Algérie le partage. L'Algérie qui est toujours présentée comme un partenaire fiable de l'Europe en matière de l'énergie.
Et cela va avoir un impact économique favorable pour l'Algérie?
L'Algérie dépend toujours des exportations du gaz et du pétrole, c'est plus de 90%. Et évidemment qu'il y a des efforts qui sont fournis depuis plusieurs années pour diversifier l'économie, pour ne pas dépendre du pétrole et du gaz, mais plus d'argent donc dans les caisses de l'État algérien, pourquoi pas? L'Algérie n'entend pas profiter de la crise ukrainienne, n'entend pas profiter de la crainte européenne de ne pas se fournir en gaz ou d'avoir du gaz russe. La Russie utilise le gaz comme une arme. Mais c'est la propre état d'économie qui a grand besoin d'argent frais, qui a grand besoin d'être relancé dans plusieurs domaines, dans plusieurs segments, notamment le tourisme, notamment l'agriculture, l'énergie et également les industries légères. L'Algérie voudrait absorber un taux de chômage très élevé, qui reste très élevé surtout auprès des jeunes diplômés. Et donc, puisque c'est une opportunité qui se présente, pas uniquement avec l'Italie, parce que des opportunités se présentent aussi avec l'Allemagne, avec la France, avec la Grande-Bretagne, cela aiderait aussi l'économie algérienne de mieux se renforcer et de renforcer aussi les caisses de l'État.
Vous évoquiez ce lien privilégié entre l'Algérie et l'Italie. Quelle est l'origine de cette relation?
L'Algérie et l'Italie sont des pays qui sont liés par un traité d'amitié. D'ailleurs, c'est le seul traité d'amitié après celui de l'Espagne. Vous savez que celui de l'Espagne est suspendu en raison de la crise diplomatique entre les deux pays. L'Algérie est liée avec l'Italie avec un traité d'amitié qui date de plusieurs années. Pourquoi? Parce que les Algériens n'ont pas du tout oublié que les Italiens, notamment les intellectuels italiens, avaient soutenu la guerre de libération en Algérie, avaient soutenu le combat du peuple algérien pour se débarrasser du colonialisme français. Et cela n'a pas été oublié durant ces dernières années. L'Algérie, l'Italie et l'Algérie partagent beaucoup de visions et de points de vue sur le plan des politiques extérieures, notamment sur le dossier de la Libye, du Mali, de la région sahélienne, de certaines questions liées au monde arabe et aussi à l'Afrique, à la lutte contre le terrorisme. L'Italie était aux côtés de l'Algérie quand l'Algérie avait besoin d'aide et de soutien logistique, technique et sécuritaire dans la lutte contre le terrorisme dans les années 90. Et donc tout ça n'a pas été oublié en Algérie. Donc l'Algérie considère l'Italie comme un grand partenaire en Méditerranée. Et cela est salué, bien sûr, par les Italiens. Le Premier ministre Mario Draghi a visité l'Algérie deux fois cette année. Et il y aura d'autres visites. Et on parle aussi d'une densification de la coopération dans le domaine culturel, de la coproduction de films, également dans la protection du patrimoine, etc. Donc la coopération entre les deux États est en train de s'élargir grandement pour devenir l'une des plus importantes entre un pays africain et un pays européen.
Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. L'Assemblée nationale a approuvé la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, cela dans le cadre de l'examen en première lecture du premier projet de loi relatif au pouvoir d'achat. En clair, les revenus du conjoint ne seront plus pris en compte lors de l'attribution de cette aide. Cette mesure doit entrer en vigueur d'ici octobre 2023. Créée en 1975, l'AAH, qui compte 1,22 million de bénéficiaires, dont quelques 270 000 en couple, est attribuée sur critères médicaux. L'hémicycle a aussi approuvé les revalorisations de 4% des pensions de retraite et des prestations sociales. Enfin, une nouveauté en Égypte, les citoyens et visiteurs peuvent désormais pratiquer librement la photographie amateur dans ses rues et ses espaces publics. Une annonce du ministère du Tourisme. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.